Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous suivez en ce moment un séminaire de formation du club Jésus pour réussir, animé par Edgar Bidibi et Hermione Huigban. Le club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jésuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir, une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Que la solution existe.
Je reviendrai sur ça tout à l'heure, je finis rapidement avec les divorces. Il y a la lettre de la loi. Mais plus que la lettre de la loi, il y a l'esprit de la loi. Regardez Jésus par exemple. La loi dit que tu ne dois pas travailler le jour du sabbat. Jésus guérit les gens le jour du sabbat. Il dit, je suis le maître du sabbat. L'homme n'est pas fait pour le sabbat. C'est le sabbat qui est fait pour l'homme. Il leur demande pourquoi. Bien que la loi dit le contraire, l'esprit de la loi l'autorise à le faire. Et il y a beaucoup de choses qu'avec ses disciples, il ne s'est pas rebellé, mais il a pris le contenu de la loi. Non pas pour dire que la loi était mauvaise, mais pour montrer que cette loi visait un principe et que son comportement respectait ce principe au-delà même de la lettre de la loi. Ce que je dis est peut-être très compliqué pour des gens qui ne sont pas encore grands dans la foi. Mais retenez simplement que quand le Saint-Esprit est en toi, le Saint-Esprit, c'est lui qui a écrit la loi. Le Saint-Esprit, c'est lui qui a écrit la Bible. C'est comme un magistrat. Quand deux personnes ne sont pas d'accord sur l'interprétation d'une loi, on va voir, par exemple, les constitutionnalistes, eux qui ont écrit la loi pour dire, comme c'est eux qui ont écrit la loi, comment ils pensent qu'on doit l'interpréter. La Bible considère que quand le Saint-Esprit est en toi, c'est le constitutionnaliste de la loi qui est en toi. Quand il te donne la conviction de faire quelque chose, que tu es en paix avec toi-même, et que connaissant Dieu, tu as tous les signes que c'est Dieu qui te fait faire ça. Cette conviction donnée par le Saint-Esprit est plus importante que ce qui est écrit. Parce que l'esprit de la loi est au-dessus de la lettre de la loi. Et quand, avec le temps, tu regardes bien, le Saint-Esprit te donne une série d'éléments, parce que parfois toi-même tu ne comprends pas pourquoi le Saint-Esprit te fait faire ça. Le Saint-Esprit te donne une série d'éléments qui finissent par te comprendre pourquoi et en vertu de quel principe il s'est autorisé à faire ce qu'il a fait. En résumé, personne ne devrait divorcer. Autant que faire ce feu, il ne faut pas divorcer. Mais comme le disait Jésus, parce que les hommes ont un cœur mauvais, que les femmes ont un cœur mauvais, il arrivera parfois, hélas, des situations dans lesquelles la volonté de Dieu sera que deux personnes se séparent, parce que Dieu estime que leur séparation donnera beaucoup plus de meilleurs fruits que le fait qu'ils restent ensemble. À ce moment-là, histoire d'enfants, il y a des familles où les parents n'ont plus rien à voir ensemble. Il reste 30 ans d'hypocrisie ensemble. Les enfants sont aussi détruits, sinon plus détruits que les gens qui ont clairement divorcé. Donc ce n'est pas vrai que, quel que soit le prix à payer, quelle que soit la déchéance, quelle que soit la dégradation du couple, sous prétexte d'enfants ou de quoi que ce soit, il faut toujours rester ensemble. Il faut toujours demander la volonté de Dieu. La volonté de Dieu sera souvent que deux personnes mariées restent mariées. Mais comme hélas, beaucoup de gens ne se sont pas mariés en écoutant la volonté de Dieu. Écoutez, tu ne peux pas faire un contrat en France et quand tu veux l'interpréter, aller voir les États-Unis. Pour pouvoir se prévaloir de l'autorité de la loi française, il faut être marié en France. Donc tu ne peux pas utiliser le registre de Satan pour te marier et utiliser le registre de Dieu quand tu veux décider ton divorce. Vous me suivez? Donc, comme hélas, si les gens se mariaient bien, Si les épouses, comme le dit la Bible, étaient un cadeau de Dieu, et si c'est juste parce que tu as envie de t'amuser, de forniquer, de tromper ta femme, parce que tu as envie de vagabonder, le divorce ne devrait jamais intervenir. Mais vu la méchanceté des hommes, grand H, et tous ceux dont ils sont capables, il va y avoir, il y a des cas dans lesquels, dans sa souveraineté, la volonté de Dieu sera de séparer deux personnes afin de pouvoir accomplir son destin dans leur vie. Vous devez savoir que deux personnes mal mariées, c'est les deux mal mariés, mais c'est les gens qu'ils auraient dû épouser qui seront à leur tour mal mariés. C'est, regardez en série, un mauvais mariage, c'est des dizaines de personnes qui ne sont pas avec la bonne personne. Parce que chacun de nous a bel et bien une âme sœur, a bel et bien une personne qui est conçue pour fonctionner avec lui. Et c'est aussi le problème de beaucoup de couples. Les gens croient que quelqu'un est bon en amour et quelqu'un est mauvais. Personne n'est jamais mauvais, personne n'est jamais bon. Les gens sont comme ils sont. Et aucun de nous n'est parfait. Mais il y a des gens compatibles et des gens incompatibles. C'est comme les chargeurs. Je peux avoir un excellent chargeur qui marche très bien. Je le branche à mon téléphone, ça ne marche pas. Parce que ce n'est pas le chargeur conçu pour mon téléphone. Si tu n'es pas sage, tu diras que le chargeur est mauvais ou que le téléphone est mauvais. Ce n'est aucun des deux. C'est que ce téléphone-là ne marche pas avec ce genre de chargeur. La réalité dans la vie, c'est que Dieu qui sait toutes choses a prévu, vous ayant conçu, qui est conçu pour s'adapter parfaitement à vous. Pour aimer vos défauts comme vous êtes, ou pour les supporter comme ils sont, pour aimer vos qualités, pour compléter vos faiblesses, pour profiter de vos forces, Dieu synchronise parfaitement deux destinées. Donc, tu peux être parfait, ou tu peux être d'un type donné, mais ne pas du tout être la bonne personne pour ton conjoint. Tandis que pour elle aussi, elle n'est pas forcément mauvaise, mais tu n'es pas la bonne personne pour elle. Donc, le bonheur en couple ne se pose pas qu'en termes de « est-ce que mon conjoint est bon ou mauvais ?» C'est « est-ce qu'on est conçu pour fonctionner ensemble ?» Première chose. Deuxième chose, vous ne savez pas de quoi demain est fait. Je connais des cas, par exemple, où une femme voulait se marier. Elle a demandé, comme il fallait le faire, heureusement, la volonté de Dieu. Dieu dit non. Le gars était riche, le gars était beau, le gars était gentil. Dieu dit non, ce n'est pas ton mari. Elle dit, mais pourquoi je ne vais pas me marier? Dieu dit, non, ce n'est pas ton mari à temps. Heureusement pour elle, elle ne s'est pas mariée. 2 mois après, le gars est mort. Ça veut dire que sur le papier, c'était parfaitement le mari. En fait, c'était marié. Ce n'est pas que le mari n'était pas bon. Elle a devenu veuve 2 mois après. Mais Dieu, qui n'a pas prévu qu'elle ait une destinée de veuve, dit, ce n'est pas lui que j'ai prévu. Attends qui j'ai prévu. Il n'y a pas de technique pour choisir une femme. Il n'y a pas de technique pour choisir un homme. Comme on le dit en fond, un homme et une femme, ça ne sera jamais du combo que tu peux ouvrir pour regarder à l'intérieur. Chacun peut jouer la comédie. Quelqu'un peut se faire passer pour le meilleur des types étant le pire des gars. Et l'inverse est vrai aussi avec les femmes. Et même si quelqu'un est riche aujourd'hui, puisque vous aimez les riches, qui te dit qu'il ne sera pas pauvre demain? Et que celui qui est pauvre aujourd'hui, qui te dit qu'il ne deviendra pas riche demain? Celui qui est malade aujourd'hui, qui te dit qu'il ne va pas vivre 100 ans en bonne santé alors que celui qui est en bonne santé va faire passer un accident dans 2 mois, il va mourir? Tu ne sais rien de demain. Ni de toi-même, ni de l'autre. Tu ne peux pas choisir comment vous allez vivre ensemble pour toujours. Vous-même qui êtes là, et moi qui suis ici, je ne suis pas aujourd'hui qui j'étais il y a 1 an. Et je ne suis pas aujourd'hui qui j'étais il y a 5 ans. Et je ne serai pas demain qui je suis aujourd'hui. Nous changeons continuellement. Nous mûrissons. Nous changeons de mentalité. Nous découvrons d'autres choses. Notre caractère même change. Il y a des choses que je déteste aujourd'hui que j'aimais il y a 5 ans. Il y a des choses que j'aime aujourd'hui que j'ai détestées il y a 5 ans. Si quelqu'un était compatible avec moi il y a 5 ans, et que ce n'est pas Dieu qui nous a mis ensemble. Parce que si Dieu nous a mis ensemble, il nous synchronise toute notre vie ensemble. Il nous fait évoluer de manière simultanée, de telle sorte que, quels que soient les ajustements, comme c'est lui qui a créé, c'est toujours adapté. Mais si ce n'est pas Dieu qui vous a mis ensemble, tu peux dire, je suis avec quelqu'un aujourd'hui, au début ça se passe bien, et un jour ça se passe mal. Parce qu'en évoluant, vous changez chacun. Et ceux qui étaient, par exemple, il y a des gens qui sortent ensemble, quand ils sont sur le banc, ils sont compatibles. Vous allez à l'école, on vous amène à l'école, vous voyez les week-ends pour prendre un coca. C'est bien facile d'être compatible à ce moment. Mais ce n'est pas évident que quand vous allez atteindre un certain âge, chacun ayant mûri, chacun ayant grandi, ayant des priorités dans la vie, ayant fait des études et consorts, vous resterez compatibles. Dieu seul sait avec qui vous serez toujours compatibles. Et si vous êtes avec la femme de votre vie, tous les jours vous découvrirez en elle que Dieu a prévu votre vie à deux depuis toujours parce qu'elle est trop bien synchronisée pour être le fruit du hasard. On reconnaît qu'on est avec son conjoint quand on découvre de mieux en mieux tous les jours qu'on ne pouvait épouser personne d'autre que lui. C'est pour ça que le vrai amour grandit. L'amour qui meurt petit à petit. Dans 1 Corinthiens, je crois, 13, on a la définition d'amour, on va la lire rapidement. L'une des premières caractéristiques de l'amour, c'est qu'il ne meurt jamais. Or, quand on parle de mort, la mort, ce n'est pas seulement le fait pour quelque chose de diminuer, de disparaître. La mort, ce n'est pas seulement quand quelque chose disparaît. La mort, c'est quand toute chose se déprécie. La maladie est la mort de la santé. La pauvreté est la mort de la prospérité. Les soucis, c'est la mort de la paix. Donc, quand on dit que l'amour ne meurt jamais, l'amour n'est pas censé se dégrader. Le vrai amour grandit. Si, par exemple, vous êtes chrétien et vous apprenez à manifester l'amour de Dieu, vous allez voir que cet amour va en grandissant, pas en diminuant. Et donc, pour revenir au couple, comme je l'expliquais, il y a trois amours différents qui perdent les gens. Parce que, hélas, en français, c'est ça l'imperfection des langues, il n'y a qu'un seul mot pour parler d'amour. Et ce mot, c'est amour. Mais quand on remonte à l'étymologie, il y a plus, mais il y a au moins trois mots principaux qu'on utilise pour parler d'amour dans d'autres langues, le grec et l'hébreu, je crois, qui ne sont pas le mot amour. Et ces mots-là ont l'avantage d'être plus spécifiques. Mais quand on les met tous ensemble sous le dénominateur commun d'amour, ça trompe beaucoup de gens. Le premier, c'est Eros. Quand on dit je l'aime, ça peut vouloir dire je le Eros. Le deuxième, c'est Philéo. Quand on dit je l'aime, ça peut vouloir dire je le Philéo. Le troisième, c'est Agapao. Quand on dit je l'aime, ça peut vouloir dire je le Agapao. L'amour Eros, c'est l'amour fondé sur le désir sexuel. Elle a de beaux seins, elle est belle, ses cheveux me plaisent, elle est claire, elle est mince, elle est grosse. Moi, j'aime les femmes de telle nature. Tout ça là, c'est fondé sur le désir de la chair. Il faut que tu touches la personne, il faut que tu la vois, il faut que tu aimes sa voix. Tout ce qui réveille en toi la pulsion sexuelle, qui réveille en toi le désir, ce n'est pas que le désir soit mauvais, mais l'amour Eros, c'est l'amour qui contrôle le désir. Et, comme tout animal, l'amour Eros, c'est un amour pulsionnel. C'est-à-dire que c'est plus fort que toi. Quand ça vient, c'est que c'est là. Quand tu as soif, tu ne décides pas de reporter la soif à demain. Quand tu as soif, tu as soif. Quand tu as faim, tu as faim. Et quand tu as soif, tant que tu n'as pas bu, tu n'es pas à l'aise. D'accord? Quand tu as soif, tu es prêt à tout pour boire. Si on veut même te demander de te mettre à genoux, quand tu atteins un certain niveau de soif, tu es même capable de te mettre à genoux pour trouver à boire. N'est-ce pas? Si on doit même dire, bon, viens, comme tu es dans le désert, et tu vois quelqu'un qui a de l'eau glacée, il dit, je dois te donner deux gifles pour te donner l'eau, tu vas accepter qu'il te donne les deux gifles pour prendre l'eau. On est d'accord? Donc tu es prêt à n'importe quoi pour boire. Mais dès que tu as bu, tu ne seras plus prêt à la moitié des choses auxquelles tu étais prêt quand tu avais soif. On est d'accord? Donc l'amour Eros étant pulsionnel, ça vous saisit. C'est plus fort que vous. Vous avez faim de désir. Vous êtes prêt à tout pour assouvir votre désir. Mais étant un désir, dès qu'il est assouvi, il disparaît. Tu vois une robe, elle te plaît. Tu miroites ça. Tu fatigues ton mari. Tu le baratines. Tu fais la bonne cuisine pour le convaincre d'acheter. Tu penses que c'est le plus beau truc du monde. Le jour même, il a acheté. Avant le soir, tu es déjà fatigué la robe. Quand tu prends les femmes là, leur placard est plein d'habits. Mais ça, je dis, qu'est-ce que je vais porter maintenant? Alors que le placard est plein, parce qu'à peine elle a eu ça, le désir est passé. Elle désire déjà autre chose. Je suis en train de vous expliquer que par définition, le désir est éphémère. Tout désir disparaît dès qu'il est assouvi. Tout désir. Donc, Eros étant bâti sur le désir, quand quelqu'un dit, elle a de beaux seins, je veux sortir avec elle, il te dit, je t'aime. En fait, il ne ment pas. Il faudra lui demander, entendons-nous. De quel amour tu parles? Est-ce que c'est Eros? La pauvre, je connais des jeunes qui disent, bon, c'est pas ma copine, c'est ma partenaire de baise. Ça veut dire quoi? Ils se disent, bon, nous on baise ensemble, rien d'autre nous concerne. C'est fréquent chez les blancs. Après ça, union libre. C'est diabolique, mais c'est possible. Au moins, ça a le mérite de la clarté. Je te dis, je t'aime. Mais attention, ne rêve pas d'agapao, c'est Eros. Si ça ne te plaît pas, tu dis non et tu t'en vas. Si ça te plaît, tu restes. Mais le méchant, c'est qu'un homme ou une femme fait croire à l'autre qu'il est d'agapao, alors qu'en fait, il veut juste Eros. Parce que l'autre se donne à lui en se disant qu'il est en train d'entrer dans Agapao, alors qu'en fait, lui ne voulait que Eros. Et naturellement, quand Eros est terminé, l'autre est rassasié. Ça lui plaît pas, il peut tourner en rond, comme on dit, na bah oui, na perdu, na y. Mais dans tous les cas, il ne finira pas parti. Parce que quand on est rassasié, on s'en va. S'il part, et c'est là où madame disait, le désir crée le manque crée le désir. Quand il t'a oublié, il s'est amusé avec mille autres filles, un jour, il s'est dit, ah, la fille a été quand même terrible. Hein. ce serait pas mal d'y repasser. Il t'appelle, tu rebattines, quand vous êtes idiote. Oh, tu sais, tu m'as manqué. Ouais, j'avais voyagé. Puis je voulais faire du sérieux avec toi. Je ne voulais pas te blesser. Quand il te bat, il dit, bon, d'accord, c'est pas grave. Il dit, ah oui, bon, il était parti, mais il m'a parlé. Donc, j'ai fini par accepter. Il avait simplement fait à nouveau. Et il va finir de boire. Il dit, mais pourquoi, bon, je l'avais cru, il est reparti. Il avait soif. Il avait, tu l'as donné à boire. Pourquoi il va rester quand il a fini de boire? Ne soyez pas naïves, les femmes. Hein? Donc, ça, c'est Eros. Eros n'est pas mauvais. Mais il ne doit pas être le fondement d'un couple. Aucune relation ne devrait être bâtie que sur Eros. Aucune relation ne devrait commencer par Eros. Ça doit être l'apogée de la relation. Philéo. L'amour philéo, c'est l'amour intéressé. En caricature, c'est l'amour des politiciens. Quand il n'y a pas d'élection, il s'en fout de toi. Quand il y a une élection, il devient ton amour, ton ami, il peut te donner un biscuit, il peut te donner un sac de riz, 2000 francs, il va te tapoter, les jeunes subitement, il va vous aimer. Ça, c'est l'amour philéo, c'est l'amour calculé, c'est l'amour intéressé. C'est aussi selon philéo que les femmes disent, ah, mon gars là, lui, c'est mon chic. Bon, parce que quand elles sont avec lui, bon, il est bien, il est présentable, ses copines sont contentes. Bon, lui, c'est mon choc. Quand elle veut baiser, bon, c'est lui qu'elle appelle. Donc, même ce choc-là, c'est intéressé. Ah, lui, c'est mon chèque. Bon, c'est lui l'idiot qui a l'argent. Je vais, quand j'ai un anniversaire, il y a des filles qui ont 10 anniversaires dans l'année. Donc, chaque idiot de chèque a sa date d'anniversaire. Bon, chacun finance. Donc, philéo, c'est cet amour qui est mu par qu'est-ce que je gagne avec l'autre. Ah, c'est un enfant de bonne famille. Ah, il est sérieux. Ah, lui, il ne va pas dans les boîtes de nuit. Donc, lui, au moins, il ne va pas me tromper. Si je le prends comme mari, c'est bon. Il va dormir à la maison. Il ne risque pas de me tromper. Moi, je serai libre. Ou bien, bon, lui, il est tout le temps en voyage. Donc, si je le prends comme mari, il ne sera jamais là pour me suivre. Je pourrais me prostituer. C'est ça, philéo. C'est le calcul qui, pour juste son intérêt, ou bien, ah, la fille, elle a beaucoup d'argent, elle travaille bien. Comme elle travaille bien, elle a son argent, elle ne va pas me prendre beaucoup d'argent. Pour aller chez sa coiffeuse, sa couturière, ce n'est pas moi qui vais payer. Donc ça me fait des économies. Je préfère me mettre avec elle qu'avec un autre. Donc, c'est le calcul qui détermine que, ah, c'est rentable pour moi d'aimer cette personne. Cet amour est égoïste. Cet amour a pour conséquence que l'autre est toujours prêt quand il peut gagner chez vous. Mais le jour où il n'a plus rien à gagner, il change, il devient arrogant, il commence à vous mépriser, il vous interpelle. Si c'est ponctuel et que par hasard, vous revenez rapidement dans cette situation, il reste. Mais si cette situation dure, tôt ou tard, la personne va partir. Ça arrive à beaucoup d'hommes. Ils ont une femme qui pense être la femme merveilleuse. Ils lui donnent des millions par mois. La femme est prête à tous leurs caprices. Elle accepte tout. Ils croient que c'est l'amour. Le jour où leurs affaires marchent mal, ils ont une pénurie pendant un mois. Elle commence à leur manquer de feu. C'est quoi ça? Tes amis donnent l'argent. Qu'est-ce qui se passe? Elle devient de plus en plus agressive. Quand plus l'argent diminue, plus tu ne reconnais plus ta femme. Si tu as la chance, parce que là ça devient une chance, que le problème du généralement va partir. Quand l'argent revient maintenant, elle dit que non, elle était partie sur les caprices, elle veut revenir. Là, il faut bien la chasser. Mais souvent, quand tu as la malchance que l'argent revient vite, elle redevient rapidement normale. Et tu penses que c'était une caprice. C'est pour ça que je conseille aux hommes, si vous êtes dans une relation, il y a des fois, il faut priver votre épouse. Parce que c'est surtout les femmes qui font ça. Hélas, maintenant, il y a aussi les gigolos qui font la même chose. Donc, il y a aussi maintenant des hommes qui sortent avec les grands-mamans ou avec les femmes parce qu'ils ont l'argent, parce qu'on va l'acheter trim. Bon, donc, c'est dans les deux côtés. La meilleure manière, bon, les grands-mamans aussi, elles savent que c'est pas par amour que le gigolo est là, c'est juste un pompier. Donc, elle n'a pas besoin de faire le test. Mais, si vous voulez savoir si quelqu'un vous aime par intérêt ou par amour, il faut le priver de ce qui l'intéresse un certain temps et voir comment il réagit quand il n'a pas ce qu'il aime. Si votre relation ne se porte bien que quand il a ce qu'il veut, ce n'est pas de l'amour. Tout le monde est là où il a ce qu'il veut. Le fait qu'un homme reste avec toi quand il a ce qu'il veut, ce n'est pas de l'amour, il ne faut pas être idiote. Ah, il a dit que si je ne fais pas l'amour avec lui, il va partir. Heureusement qu'il parte vite. C'est bien la preuve qu'il ne t'aime pas. Oui, le jour où un homme vous dit que si vous ne faites pas l'amour avec lui, alors que vous n'êtes pas marié, bien sûr. Parce que la Bible dit qu'une femme ou un homme ne sont pas censés se refuser à l'autorité du mariage, à moins que ce soit de commun accord. Si hors du mariage, un homme te dit que si tu ne couches pas avec lui, il s'en va, chasse-le le même jour. C'est la preuve qu'il veut jouer avec toi comme Eros. Aucun homme qui aime vraiment une femme, parfois lui-même il dit amour, il croit que c'est amour, alors que pour lui-même c'est Eros. Parce que le problème c'est que ceux qui font ça, ne sont pas toujours conscients de ce qu'ils font. Quand il a soif, il pense que c'est à vie. Donc quand il est Eros, lui-même il croit que c'est amour. C'est quand il aura fini de boire et que ça va lui passer, qu'il va dire, bon, maintenant elle ne me dit plus rien. Donc parfois, le même il a aussi quoi que c'est agapao. C'est à toi d'être vigilante. Et exactement comme pour Philéo, en privant la personne de ce qu'il trouve en toi, ou quand les moments où ceux qui l'aiment en toi ne sont pas là, il faut voir comment il se comporte. Ça te permettra de savoir s'il est là pour toi, quoi qu'il en soit, ou s'il est là pour ce que tu lui apportes. Si un homme est gentil, chaque fois qu'il veut te demander à faire l'amour avec toi, quand tu refuses, il se fâche, il s'en va, et il te fait le chantage que s'il ne couche pas avec lui, tu es parti, il faut le laisser partir. Est-ce que tu es un jouet? S'il n'est là que parce qu'il veut coucher avec toi, quand il aura fini de coucher avec toi, il partira. La question, ce n'est pas s'il va rester, c'est quel moment il part. Est-ce qu'il part sans avoir couché avec toi ou est-ce qu'il part après avoir couché avec toi? Je pense qu'il vaut mieux qu'il parte sans avoir couché avec toi que qu'il parte après avoir couché avec toi. Parce que quand nous sommes jeunes, nous devons nous rappeler que ce que nous faisons ne disparaît pas. Ce que tu fais aujourd'hui sera là dans 10 ans. Un jour, tu vas être marié avec quelqu'un. Tu vas te déplacer dans la ville. Avec ton mari, tu es en train de faire la maline. Tu crois un de tes anciens gars. Il se dit, oh, celle-là, je suis passé par là. Tu baisses la tête. Ou bien, s'il y en a un, ce n'est pas grave. Tu ne vas pas le croiser souvent. Quand il y en a 30 dans une ville, petite comme Cotonou, et que tu commences à ne plus aimer sortir, parce que n'importe où tu vas, des soirées officielles, il y a plein de gars, oh, la fille là. Il au fini, hein. C'est ça le problème. Et les hommes se parlant, ils savent rapidement quelles sont les filles que telle et telle ont essayé. Il vaut mieux qu'un homme parte sans avoir joué avec toi que de partir après avoir joué. Dans tous les cas, il part toujours. L'amour agapao, c'est l'amour que je définis ici. 1 Corinthiens 13, ça dit ceci. L'amour est patient. S'il est pressé de faire l'amour avec toi, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas agapao, c'est eros. Quand on a soif, c'est pressé. Mais quand on veut vivre avec quelqu'un, on n'est pas pressé. On a toute l'éternité pour faire l'amour. L'amour rend service. Il y a des filles, leur copain n'a jamais rien fait pour eux. Quand ils se séparent, quand ils se voient, ils baissent ensemble, ils s'en vont. Ça fait au prochain rendez-vous de baisse qu'ils vont s'appeler. Je mens. Elle dit, ah, je suis occupé, je suis au boulot. Généralement, comme aussi, elles aussi, elles sortent avec le mari de quelqu'un d'autre. Ma femme est là, tu ne peux pas m'appeler, c'est moi qui vais t'appeler, je suis en mission. Il y a des femmes qui sont comme des joueurs, elles sont là. L'homme, quand il a envie de s'amuser, il vient, il couche avec elle, il donne un peu d'argent, il s'en va. Elle dit, oui, il ne m'appelle jamais. Elle fait comme si c'était un amour qui nous appelle, qui ne l'appelle pas. Mais non, c'est quelqu'un qui joue, quand il a fini de jouer, il n'y pense pas jusqu'au prochain jour de jeu. L'amour rend service. Si quelqu'un t'aime, même s'il ne gagne rien dedans, il va te faire du bien. Il va tout le temps se demander comment te faire du bien. Il va être prêt à utiliser ton argent pour te faire du bien. Il va être prêt à te pardonner tes erreurs pour te faire du bien. Il va chercher à comprendre qu'est-ce que tu aimes pour te faire du bien. Il va faire attention à toi. Il va aimer la compagnie des gens que tu aimes. Il va chercher à connaître qui tu es, qu'est-ce que tu aimes, comment tu veux ton avenir. Si quelqu'un t'aime, il va t'aimer avec ou sans sexe. Et en réalité, l'amour agapao, c'est l'amour que tout le monde doit avoir pour tout le monde en Dieu. Pourquoi je passe mon temps à vous expliquer ce que je vous explique? Parce que je vous aime et que je ne veux pas que vous souffriez. Pas parce que vous pouvez me donner quelque chose en retour. Pas parce que je gagne quelque chose. Mais parce que quand tu connais Dieu, tu as un sincère souci, désir que les autres soient heureux et ne souffrent pas. Et tu es prêt à payer cher pour ça. L'amour rend service. Elle ne compte pas le service. Et l'homme est fait pour aimer. L'homme grand H, donc l'homme et la femme, sont faits pour aimer. Parce que Dieu est amour. Et que nous sommes faits à l'image de Dieu, nous ne nous sentons bien en paix avec nous-mêmes que quand nous aimons. C'est pour ça que quand tu n'aimes pas, il y a un vide en toi. Et quand il y a un vide dans toi, tu sens le besoin d'aimer pour combler ce vide. Le problème, c'est que quand tu manques d'essence dans ta moto, c'est légitime. Ce n'est pas parce que tu manques d'essence que tu vas pisser dans ta moto. Ou bien, aller s'amuser avec l'amour comme vous vous amusez là, revient, c'est légitime de dire la moto a besoin d'essence. Sinon, ça va s'arrêter. Aucune moto ne peut être heureuse sans essence. Mais quand tu n'as pas l'essence, il faut chercher à apprendre à avoir l'essence. Il ne faut pas t'arrêter faire pipi dans ta moto en disant que c'est la même chose, que c'est la même couleur. Faire héros là, s'amuser comme on s'amuse pour finalement souffrir, c'est comme celui qui pisse dans son réservoir pour finalement découvrir que son moteur bousille. Mais au moment où il pissait dedans, il pensait qu'après tout, comme ça, la même couleur que le paillot, ça va avoir peut-être le même résultat. Non, ça n'a pas le même résultat. Le pipi, ça n'aura jamais le résultat de l'essence. Ça se ressemble, mais ce n'est pas pareil. Nous avons tous une fin d'amour. Aucun homme ne sera jamais heureux, grand H, je veux dire, sans amour. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu et Dieu est amour. Donc il y a quelque chose de nous qui appelle tout le temps l'amour comme le poisson a besoin de l'eau. Et c'est pour ça que la Bible nous révèle. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est un grand secret que les gens n'ont pas compris. Regardez bien. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, vous vous sentez redevable. Quand par exemple quelqu'un me rend un service, j'ai immédiatement le réflexe de chercher qu'est-ce que je peux faire à la personne pour lui payer sa dette, pour ne rien lui devoir. Parce que la main qui donne est toujours dessus. Quand quelqu'un vous donne quelque chose, il vous tient. Cela étant, même quand on est content de recevoir les choses, celui qui reçoit quelque chose n'est jamais au maximum de la joie. Parce qu'il est obligé au moins de se faire petit pour dire merci à celui qui lui a donné. Mais quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, quand tu vas par exemple dans ton quartier, tu t'appelles par exemple Yvon, tu as fait la monnaie de 1000 francs en pièces de 50 francs, tu vois un petit gars, tu as 50 francs, tu dis, ah merci Fofo, et tu deviens le héros de ton quartier. Là, tu te sens grand. Tu te sens quelqu'un. Beaucoup plus que si quelqu'un te donne 50 000 francs. Parce que tu as partagé ces 50 francs à des petits qui t'ont honoré, qui t'ont dit merci grand frère. Quand tu vas dire grand frère, ça va, ils vont laver ta moto, ils vont te traiter comme un roi. Donner 50 francs à quelqu'un, fait plus de bien à ton cœur que de gagner 50 000 francs toi-même. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que si l'homme marche selon le plan de Dieu, moi je suis un homme heureux, personne ne peut m'empêcher d'être heureux. Parce que j'ai été éduqué pour que toute ma vie soit amour. Toute ma force dans ma vie, c'est que je ne me suis toujours posé qu'une seule question. Comment je fais du bien aux autres? J'ai appris ça de ma grand-mère, de mon père, de ma mère, et j'apprends ça à mes enfants. Je ne sais pas comment on peut vivre autrement. Quoi que je fasse, même quand je veux gagner de l'argent, je me demande d'abord comment je règle les problèmes de ces gars. L'argent me suit ensuite. L'amour est tout. Celui qui n'a pas l'amour n'a rien. Cela veut dire que chaque homme, là où je dis, aimez vos prochains comme vous-même. Chaque homme, chaque femme devrait tous les jours manifester de l'amour à ceux qui sont autour de lui, à ses parents, à ses amis, à tout le monde. Devrait chercher à être patient. On dit l'amour est patient. L'amour rend service. L'amour n'est pas jaloux. On reviendra sur la jalousie tout à l'heure. L'amour ne se vante pas. Il ne se gonfle pas d'orgueil. Ne se vante pas, c'est quoi? Oh, la petite l'a fait la malice seulement. Tout ce qu'elle a porté, c'est moi qui lui ai acheté. La dernière fois, elle m'a amené à Moutier. Bon, j'ai dépensé 10 000 francs pour lui porter ça. Elle fait la malice maintenant. C'est comme ça, les hommes parlent entre eux. Mais à la petite, là, il n'y a rien là. Moi, je suis passé là la dernière fois, il n'y a rien. Elle est intelligente. Toi-même, il faut essayer. C'est comme ça, les garçons parlent entre eux, non? Ils se vantent. Vous ne pouvez pas savoir tout ce qu'ils disent dans votre dos, sinon vous ne jouerez pas comme vous jouez. Ils ne se gonflent pas d'orgueil. Ah, c'est moi, je suis le plus important. Ah, c'est moi, le président. Et puis tu ne fais pas. L'amour ne se gonfle pas d'orgueil. L'amour ne fait rien de honteux. Quand tu veux faire quelque chose toi-même, tu en as honte. Tu veux faire quelque chose que tu ne peux pas dire en public. Tu veux faire quelque chose, si ton conjoint te demande, tu vas être obligé de faire un mensonge dessus, ne le fais pas. Parce que rien de bon ne se cache. Quand toi-même, en faisant quelque chose, tu prends déjà les précautions pour le cacher, c'est que toi-même, tu sais qu'il est mauvais. Parce que rien de bon ne se cache. On n'allume pas une lampe pour le mettre sur le boisseau. On ne cache que ce qui est mauvais. Ne fais jamais dans la vie ce que toi-même, tu sais que tu devras cacher. Si tu veux le cacher, ne le fais pas. Parce que la Bible nous dit, rien ne restera caché longtemps. Toute chose se saura tôt ou tard. Les gens font les choses dans les familles, créent des situations bizarres, tôt ou tard on découvre la vérité. La vérité prend les escaliers, le mensonge prend les ascenseurs, mais tôt ou tard la vérité arrive au sommet. Votre règle dans la vie doit être de ne jamais rien faire que vous devez cacher. Si tu veux prendre une décision, tu sais que si ta femme le sait, elle ne sera pas d'accord, ou tu lui en parles, tu le lui dis avant de le faire, ou tu ne le fais pas. Mais si tu le fais, il faut que tu sois prêt à le dire. Tu ne dois jamais faire quelque chose dont toi-même tu as honte d'avance, pour commencer à organiser des stratégies pour le cacher. Parce que dès que tu commences à vouloir cacher des choses, tous les jours tu as des choses à cacher. Ton cœur devient une grande prison. C'est difficile de garder une prison. Quand tu as des prisonniers, tu dois avoir des policiers pour les garder. Donc quand tu as plein de mensonges à garder, tu n'as pas la paix. Chaque mensonge doit être gardé. Quand on te pose la même question trois fois, tu donnes trois réponses différentes. Parce qu'on ne se rappelle jamais des mensonges qu'on a fait. Moi, les gens souvent étaient surpris en politique que ce que je disais il y a 5 ans, quand on me pose la même question, je donne la même réponse aujourd'hui, dis comment tu fais? Parce que je vous disais la vérité à l'époque, je n'ai pas besoin de réfléchir. Si c'est ce que je crois, est-ce que je vous dis? Je n'ai pas besoin de faire d'efforts pour vous le redire, c'est ce que je crois. Mais il y a des gens qui mentent pour tout. Conclusion, quand tu leur poses une question, ils sont énervés d'avance parce que tu les obliges à se rappeler le mensonge qu'ils avaient fait. Donc, la communication intérieure du couple devient un fardeau parce qu'on nage dans le mensonge. Si tu ne peux pas l'assumer, ne le fais pas. Si tu ne peux pas l'assumer, ne le fais pas. C'est des règles comme ça qui vous permettront d'être heureux, en paix avec vous-même et en paix avec les autres. L'amour ne fait rien de honteux. Il ne recherche pas son intérêt. En fait, dans l'amour agapao, vous ne pensez jamais à votre bonheur. Vous ne pensez qu'au bonheur de l'autre. Mais comme l'autre aussi agapao envers vous, il ne pense pas à son bonheur. Il ne pense qu'à votre bonheur. Conclusion, votre bonheur est satisfait par tout le monde sans que vous ne pensez jamais à votre bonheur. Et vous satisfaites le bonheur de tout le monde sans penser à votre bonheur. Et c'est là où le monde dira, l'altruiste trouve sans chercher ce que l'égoïste cherche sans trouver. Celui qui fait du bien aux autres n'a pas besoin de s'occuper de lui-même. Dieu enverra des gens pour lui faire du bien. Mais celui qui ne pense qu'à lui est toujours malheureux. Il est impossible d'être heureux en ne pensant qu'à soi. Parce que quand tu penses à toi, tu verras toujours tout ce que tu n'as pas. Tout ce que tu n'as pas te stressera toujours. Tu ne seras jamais heureux. Mais quand tu donnes, tu es un petit Dieu. C'est Dieu qui donne. Chaque fois que tu fais du bien aux autres, tu te sens grand, tu te sens fort. Tu vois ce que tu as produit. Ça te donne la joie, ça te donne la motivation, ça te galvanise. Et parce que tu as galvanisé, la vie te sourit et te bénit. On ne déprime jamais parce qu'on n'a pas pu faire du bien aux gens. Quand vous pensez aux autres, vous n'êtes jamais déprimé. Mais quand vous pensez à vous, vous êtes toujours déprimé. Le secret du bonheur, c'est de manifester de l'amour agapao pour tout le monde tout le temps. Cela vous donne une dose d'amour telle que il n'y a pas de place en vous pour la haine. L'amour ne cherche pas son intérêt. Il ne se met pas en colère. Il ne se souvient pas du mal. Ah, c'est parce que je t'ai pardonné chaque fois. Il y a 10 ans, à telle date, ça c'est surtout les femmes. Tu m'as fait telle chose. En telle année, à telle date, tu m'as fait telle chose. Il y a 4 ans, tu m'as fait telle chose. Si vous devez devenir une armoire de rangement, de mauvais soucis, vous allez forcément exploser. Votre disque dur n'est pas une capacité illimitée. De temps en temps, il faut vider le disque dur. La Bible nous dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère. Quand quelque chose se termine, rangez-le au placard. Vous n'êtes pas censé vous dire que oui, bon, hier il m'a fait ci, avant hier il m'a fait ça, avant il était comme ça. Quand vous pardonnez quelqu'un, vous l'avez pardonné. Oubliez le passé, avancez si vous voulez être heureux. Vous ne pouvez pas vous souvenir du mal des autres. Il ne se réjouit pas de l'injustice. Il se réjouit de la vérité. Le vrai amour, c'est la vérité. Je te vois, tu es en train d'aller dans l'erreur. Tu as un comportement, tu en es fier, mais je sais que ça va te tuer. Je te dirai, mon frère, je t'aime. Ce que tu fais là, t'envoie dans le feu. Tu peux me détester, tu peux m'insulter. Mais je t'aime tellement que je préfère que tu m'insultes, mais que tu saches la vérité. Que quand tu entends ta maison, tu te dis, et s'il avait raison? Que même si tu m'as insulté, tu m'as tapé en public, quand tu vas être seul, cela interpelle ta conscience et te sauve. Même si pour ça, il a fallu que tu m'insultes, mon amour pour toi fait que je préfère ça. Mais me dis, je vais aller leur dire la vérité, maintenant ils vont m'insulter, ils vont dire que ça c'est un gaou. Je vais me taire. Ça c'est pas l'amour. Ça veut dire qu'entre ton orgueil, en te fait d'être insulté, et le fait de prendre le risque pour les sauver, tu as plus peur d'être insulté que de les sauver. Le vrai amour prend des risques pour les autres. Beaucoup de gens sont détruits d'un coup. Pourquoi? Tu reproches quelque chose à ton conjoint. Tu ne lui dis pas. Ça, c'est les femmes surtout aussi. Non, il était censé deviner. Il doit savoir que ça, ce n'est pas bon. Il n'y a rien à savoir. Chacun de nous a une éducation. Ce que toi, tu considères normal n'est pas ce que ton conjoint considère comme normal. Les choses que tu considères comme normal en tant qu'homme ou femme, c'est les choses que ton papa et ta maman considèrent comme normal et que tu as toujours vu considérer comme normal. Il n'est pas évident que l'autre, dans son éducation, il ait appris à conduire la même chose pour normal. Donc, la notion du normal et de l'anormal est culturelle à rapport à la programmation de chacun. Donc, ce n'est pas évident que ce que toi, tu trouves anormal, l'autre te trouve anormal. Un gars qui a toujours vu sa maman rentrer à 23h en pantalon et en micro-jupe, et son papa ne pouvait pas parler parce que c'est sa maman qui amène l'argent. Et c'est un garçon, il a vu ça. Ou bien c'est une fille, elle a vu ça. Tu te maries avec elle, rentre à 23h, tu dis que pourquoi elle va faire ça? Elle dit, mais où est le problème? Elle a vu que ça toute sa vie. Sa maman entrait toujours en micro-jupe et en décolleté plongeant. Son papa ne pouvait même pas se demander d'où elle venait. Parfois, même des gens venaient déposer sa maman, comme j'en vois à Cotonou, au salon. Le papa ne pouvait pas brancher, puisqu'il n'a pas de travail, c'est sa maman qui amène l'argent. Une fille qui a grandi dans ça. Ce que je dis, c'est des choses dramatiques, mais c'est des choses vraies. Il n'y a pas tout ça à Cotonou. Parfait. À la différence que moi, je n'ai pas peur de dire les choses comme elles sont. L'amour dit la vérité, justement. Une fille qui n'a vu que ça. Quand elle va se marier, qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc pour elle, c'est ça le comportement normal d'une fille. Elle n'a jamais vu sa maman être humble devant son papa. Elle n'a jamais vu sa maman servir son papa. Elle n'a jamais vu sa maman se taire en lui disant, on ne répond pas quand un homme parle. C'est lui le chef de la famille. Quand elle va se calmer, je vais parler à ton papa. Elle n'a jamais vu ça. Elle se marie. Tu veux qu'elle se comporte comme toi? Tu as vu des femmes normales se comporter alors qu'elle n'a vu qu'une prostituée toute sa vie. Elle ne peut se comporter que comme une prostituée. Un garçon. Son papa, quand il sort le boulot à 18h30, il va s'asseoir dans le bar, il boit avec ses amis, il fume avec eux. Il attend que tout le monde soit couché, il rentre à la maison à 23h30. Toute sa vie, il a vu ça. Quand il va se marier, s'il rentre à la maison à 22h30, il va dire à sa femme qu'elle devrait être très heureuse. Parce que son papa, lui, rentre à 1h du matin. Donc, la notion de normal n'est pas universel. C'est pour ça que dans un couple, quand les problèmes se posent, il faut toujours avoir l'amour. L'amour, c'est de dire, si nous sommes ensemble, c'est parce qu'on ne se déteste pas. Nous n'avons rien l'un contre l'autre. Sinon, nous ne serions pas ensemble. Cela étant, je présume que tu ne peux pas vouloir me faire du mal et me faire du mal. Et tu dois te rappeler que je ne peux pas vouloir te faire du mal. Toutefois, si quelque chose ne va pas, c'est que nous devons nous asseoir ensemble et voir la chose qui ne va pas. Attention, ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est que dans un couple, n'attaquez jamais l'autre en cas de problème. N'attaquez que le problème. Et c'est dans le langage que ça se joue. Je donne un exemple. Si dans le couple, par exemple, la femme fait quelque chose qui énerve l'homme, un homme qui n'est pas sage dira, tu m'as énervé, tu n'es pas sérieuse. Ce faisant, il attaque la femme. Toute personne attaquée se défend. La femme va monter ses grands cheveux, va commencer à se rebeller. Non, je ne t'ai pas attaqué, ils vont commencer à discuter. En fait, personne n'écoute personne. Ça va mal se terminer. Mais il peut dire, écoute chérie, tu sais bien que je t'aime. Tu es mon trésor, nous avons tout ensemble. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et tu sais très bien que je ne ménagerai aucun effort pour faire ton bonheur. Je suis l'homme le plus heureux du monde parce que tu fais le mien. Donc, rien ne nous oppose. Mais Satan peut mettre des choses entre nous qui vont nous opposer. Il y a des choses que tu peux faire qui vont me frustrer sans que tu ne te rendes compte. Mais moi, je suis frustré. Et si je ne dis pas, ça va exploser. Tu vas dire autre chose de banal, je vais mal réagir. Parce que je gardais ça depuis longtemps. Comme ça peut être moi qui te fais quelque chose, tu ne me dis pas, mais là, ça t'énerve. Je ferai autre chose de banal, ça va t'énerver. Je sais que tu ne peux pas vouloir me faire du mal. Je sais que tu ne peux pas vouloir me manquer de respect en public. Mais tu sais que hier, quand je te parlais devant mes amis et que tu as pris une telle manière, je me suis senti humilié. Je sais que tu n'as pas dû vouloir m'humilier. Mais quand tu as dit telle chose, je me suis senti humilié. Quand tu poses un problème comme ça, on ne peut jamais s'énerver, t'attaquer, impossible. Parce que tu ne l'as pas attaqué. Tu as posé un problème. La manière de poser un problème change tout. Si tu dis, tu n'es pas sérieux, tu m'as manqué de respect devant mes amis. Pourquoi? Tu dis, comment j'ai manqué de respect? J'ai pas manqué de... Parfois, mes soeurs ne se rendent même pas compte qu'elle t'a manqué de respect. Et ce n'est pas que toi, dans ta maison, tu as vu ta maman tout le temps se mettre à genoux avant de donner de l'eau à ton papa. Donc, c'est un effort que tu fais pour qu'elle te donne de l'eau debout. Si en plus, elle te donne de l'eau debout. Mais ce que je dis là, j'ai agi à peine. Vous savez ce que je suis en train de dire, non? Il y a des cultures comme ça. Donc, si en plus, moi, ses amis, tu dis, bon, viens manger, on va voir ça après. La femme a dit ça, elle n'a même pas fait attention. Mais lui, par rapport à cette éducation, par rapport à sa famille, se sent blessé. S'il ne parle pas, ça va bouillir. Sur un autre détail qui est banal, il va exploser. Et tu ne comprendras pas pourquoi il a explosé. Mais ce n'est pas à cause de ce que tu viens de faire. C'est à cause de ce que tu avais fait qu'il ne voulait pas dire qu'il explose sur ce que tu as fait maintenant qu'il n'est rien. Et parce qu'il n'a pas l'amour de la vérité. Et c'est le plus grand défaut des Béninois. Celui qui dit la vérité est libre. Au Bénin, les gens voient les choses comme ça, ils tournent autour. Il y en a donné, hein, il y en a rassemblé, hein, et puis on est hypocrite. C'est méchant que de voir la vérité, de ne pas la dire. Ça ne protège personne. Je te demande un service, tu ne veux pas me le rendre, dis non. Ne me dis pas oui en sachant que tu ne vas pas le faire, après tu me fuis. Parce que tu me fais compter sur toi, dis-moi non. Et le courage me dit non. Vous n'aimez pas la vérité. Or, quand on ne dit pas la vérité, on devient prisonnier de Satan. Ta femme est invitée à une soirée, elle doit aller en boîte de nuit. Tu es jaloux. Ça, c'est aussi le problème des hommes béninois. Les hommes béninois, je ne sais pas pourquoi ils considèrent que c'est honteux d'aimer. Quand tu es un béninois, toi là, tu aimes beaucoup ta femme. Hein? Non, ce n'est pas que je l'aime. C'est juste que si tu l'aimes, moi, le problème. Est-ce que je mens? Vas-y, hein? Toi là, tu aimes trop ta femme. Hein? C'est quoi ça là? Non, ce n'est pas que je l'aime. C'est juste que, il n'y a pas de. C'est juste que j'aime ma femme. Et alors? Pourquoi vous avez honte d'aimer votre femme? Vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas? Vous ne l'aimez pas parce que vous êtes avec elle. Ça, c'est la culture macho d'Abomey là qui nous suit dans le pays. La féodalité déplacée. Le résultat, c'est quoi? L'homme ne veut pas assumer son amour. Non, il ne peut pas assumer sa jalousie. Si ta femme veut aller en boîte de nuit, ça ne te plaît pas parce que tu es jaloux. Au lieu de dire que tu es jaloux, tu commences à créer des mensonges. Bon, la boîte de nuit, là, je ne l'aime pas beaucoup. Il y a beaucoup de prostituées. La femme va dire non, bon, je vais avec mon frère. Il n'y aura pas de problème. Puis, mais ils ont chassé les prostituées du quartier. Bon, oui, et puis avec l'opération Diakpatala, ils vont t'arrêter. Ce n'est pas grave, je vais m'accadenter. Puis mon oncle est commissaire. Oui, et puis ce quartier-là, je n'aime pas beaucoup ce quartier. Bon, ce n'est pas grave, ils ont déplacé la boîte de nuit. C'est dans tout le quartier, tu n'iras pas. Et puis j'ai fini. Mais pourquoi tu t'énerves? Tu as posé des problèmes et tu as répondu. Mais tu es énervé parce que tu te mentais à toi-même. Parce que tu dis à ta femme, écoute moi chérie, je ne vais pas être hypocrite. Tu as le droit de sortir. C'est ton frère qui t'invite. C'est un anniversaire. Il n'y a rien de mauvais là. mais je vais être franc avec toi. Je t'aime, et quand tu n'es pas avec moi, tu es avec des gens, ça ne me plaît pas, je suis jaloux. S'il te plaît, chérie, ne sors pas. La femme est flattée. C'est maintenant même qu'elle va bien t'embrasser. Tu vas passer la plus belle soirée de ta vie ce jour-là. Et elle ne bougera pas. Mais vous êtes incapable d'ouvrir la bouche et dire je t'aime. Et vous faites malin. Non, c'est pas que je t'aime, c'est pas que je suis jaloux, c'est juste que c'est pas sécurisant. C'est juste que quoi? C'est juste que quoi? Que tu es trop orgueilleux pour reconnaître que tu l'aimes. Et donc tu la prives du bonheur de savoir que tu l'aimes. Quand tu tiens à elle, on lui dit je tiens à toi. Et pour ça, je ne veux pas que tu t'éloignes. Et qu'elle se sente flattée, tu es enfin un acte d'autorité qui devient la guerre. Et Satan dénature les meilleurs sentiments pour en faire des sujets de crise. Aimer l'amour et aimer la vérité. Il y a des hommes qui n'ont jamais offert une fleur à leur femme de toute leur vie. Il y a des gens qui n'ont jamais dit, à part le jour de leur mariage ou quand ils voulaient sortir avec elle, à leur femme, je t'aime. Les femmes aiment les surprises. Vous devez savoir qu'appeler ta femme à l'imprévu, pour dire, je t'appelle juste pour dire que je t'aime, ça vaut plus que de lui offrir 10 000 francs ou 100 000 francs ou 1 milliard. Des petits détails. Mais dès que les hommes sont mariés, ils oublient les petits détails. Or, une femme a tous les jours besoin d'être rassurée sur l'amour. Elle a besoin de se sentir aimée. Elle a besoin de savoir qu'on pense à elle. Elle a besoin de savoir qu'on s'occupe d'elle. Elle a besoin qu'elle ait le centre de la vie de son mari. Et les femmes sont comme des jardins. Tant que tu lui donnes de l'amour, elle va te combler d'amour. Mais une femme qui se sent en insécurité ne peut pas aimer. Les femmes ne libèrent leur amour que quand elles se sentent en sécurité, quand elles se sentent aimées. Conclusion, tu peux être avec la meilleure femme du monde. Si tu ne l'aimes pas, elle va être tellement sur les défensives et sur la peur que tu ne découvriras jamais à quel point être merveilleuse. Même au lit, pour ceux qui disaient qu'une femme qui est mauvaise au lit. Les hommes sont plus aptes à baiser sans amour. Un homme rapidement se chauffe, il baise et puis passe à autre chose. C'est vrai que s'il est en train de faire de l'amour, ça monte à un autre niveau de plaisir. Mais un homme peut avoir son érection et baiser et passer à autre chose. Une femme, comme elle n'a pas besoin d'avoir d'érection, même quand elle n'est pas chaude pour une relation sexuelle, c'est facile pour elle de se laisser faire. Moi, j'appelle ça se laisser violer. Conclusion, les femmes, pour être épanouies dans la relation sexuelle et montrer tout leur potentiel, ont besoin d'être au maximum de leur amour. Plus une femme aime, plus elle va être une excellente partenaire au lit. Moins elle aime, plus elle va être détestable au lit. Cela veut dire quoi? Quand tu es en train de baiser avec une femme, il est impossible que tu découvres quel genre de femme elle est quand elle aime. Je ne sais pas si vous me comprenez. Quand tu baises avec une femme, tu ne découvriras jamais quel genre de femme elle est quand elle aime. Et ceux qui ont découvert que plus l'amour dans votre couple augmente, plus vos relations sexuelles sont merveilleuses. Plus le niveau d'amour baisse, plus ça devient une routine. Parce que chez la femme, le point pour que les relations sexuelles soient épanouies, il faut que la femme se laisse aller, qu'elle s'abandonne à son mari ou à son conjoint. Mais une femme qui ne se sent pas aimée ne peut pas s'abandonner. Elle va faire un devoir conjugal. Tu vas trouver qu'elle est nulle au lit. Mais parce qu'elle n'est pas là, elle t'a laissé la baiser, mais elle n'a pas fait l'amour. Elle ne fera l'amour que quand elle sera amoureuse. Si tu n'es pas capable de rendre ta femme amoureuse, tu ne sauras jamais quel genre d'amoureuse elle est. Est-ce que vous me suivez? C'est des choses que les gens ont de dire, mais c'est la vérité. Alors que les hommes sont souvent motivés par le sexe. Quand il y a du sexe, les hommes disent malheureusement, tout ou est tout. Il va s'exciter rapidement, il peut faire n'importe quoi partir. Mais une femme n'est pas comme ça. Elle peut se laisser faire. Mais elle ne va jamais se laisser aller si elle n'aime pas. Donc, quand quelqu'un trouve que sa femme est mauvaise au lit, c'est généralement parce que sa femme ne l'aime pas et que lui ne l'aime pas. Évidemment, il y a aussi beaucoup de femmes qui font la simulation. Quand c'est des prostituées professionnelles, elles savent que le niveau de simulation qu'elles font détermine à quel point le gars va s'attacher, à quel point on va leur donner de l'argent. Donc, c'est facile pour une femme de faire semblant d'être dans un niveau d'extase inimaginable alors qu'elle ne sent rien. Bien sûr. Bon, les hommes ne savent pas souvent ça. Ils croient que dès que vous faites semblant de vous épanouir, c'est que vous êtes épanoui. Bon, les femmes aussi savent faire la comédie. Et donc, parfois, quand vous trouvez qu'elle n'est pas terrible, c'est que, bon, elle ne fait aucun effort parce qu'elle n'est pas heureuse. Et regardez la vie de nos mamans. Une vie catastrophique, des enfants sur le dos, des maris irresponsables, des maris qui les trompent, des problèmes de famille. Les femmes ont tellement de fardeaux qu'elle ne se laisse jamais aller. On ne peut pas faire l'amour sans se laisser aller. Si vous n'êtes pas capable de rendre vos femmes heureuses, vous ne découvrez jamais quel genre de trésor elle est. Et c'est pour ça que certains hommes, je dirais même la plupart des hommes, n'ont pas fini de découvrir la femme qu'ils ont. Vous allez voir des femmes qui sont dans une relation, on dit qu'elle est mauvaise au lit. Qu'elle tombera sur quelqu'un qui l'aime. Si tu parles avec cet homme-là, tu vas avoir l'impression que ce n'est pas la même femme. Parce que quand elle se sent aimée, elle n'est pas la femme que toi tu connais en ne l'aimant pas. Avec toi, elle fait les devoirs conjugaux. Avec l'autre, elle est amoureuse. Ça fait une grande différence. Si vous voulez goûter aux délices de vos femmes, aimez-les et qu'elles se sentent aimées. L'amour excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour excuse beaucoup. Parce que tous les jours, vous allez avoir des raisons de devoir excuser l'autre. Personne n'est parfait. Deux personnes programmées différemment qui se rencontrent, ça donne forcément des frictions. Mais il faut dans ces frictions savoir dépasser le problème, en faire un problème entre nous et ne pas faire le problème de nous. Ce que je vous dis là est très important. Ne posez jamais les problèmes, c'est-à-dire ne convertissez pas les problèmes en qualificatifs pour votre conjoint. S'il vous a menti, ne dites pas tu es un menteur. Même d'un point de vue spirituel, c'est mauvais. C'est comme si vous prophétisez sa vie le mensonge. Si vous dites par exemple à votre mari que c'est un coureur de jupons, vous prophétisez qu'il est un coureur de jupons. Vous lui prophétisez une nature de coureur de jupons. Il sera s'il n'était pas déjà un coureur de jupons. Mais quand tu dis, j'ai des raisons de penser que tu as eu une intimité avec cette femme. C'est vrai que tu es libre de ton corps. Tu n'étais pas obligé d'être avec moi, mais tu as choisi d'être avec moi. Si c'est vrai, je me sens de telle manière. Tu dis la même chose. Mais quand tu mets le problème au milieu, vous pouvez tous les deux le jouer sans que personne ne soit blessé. Quoi qu'il advienne, posez les problèmes de telle sorte que vous ne confondez pas le problème à la personne. Parce que le fait de ne pas confondre le problème à la personne, c'est aussi la même manière de dire à l'autre que on croit qu'elle n'est pas le problème ou que le problème n'est pas intrinsèque à sa nature et donc qu'elle peut laisser le problème. Beaucoup de gens posent des problèmes comme s'ils n'avaient aucune espérance que le problème soit résolu. Tu es une menteuse, tu es une prostituée, tu n'es pas sérieuse, tu es infidèle. Donc ils donnent des qualificatifs à l'autre. Ils donnent une nature à l'autre. Au lieu de poser un problème en croyant, en souhaitant et en travaillant pour que ce problème ne soit que passage, il ne devienne pas une nature. Je connais par exemple beaucoup de femmes qui pendant longtemps étaient sérieuses, mais leur mari les soupçonnait tout le temps, les croyait infidèles. Tellement qu'à force d'être harcelés par les hommes, ils ont fini par tomber. Pourquoi? Mais si tu perds déjà tous les jours dans ton couple, le prix de l'infidélité, c'est-à-dire que tu n'es pas infidèle, mais on te traite comme une infidélité. Le jour où quelqu'un te tente au-delà d'une certaine limite, quelque chose en toi te dit, mais dans tous les cas, tu ne le fais pas, on dit que tu le fais. Le faire une fois de plus ou de moins, ça cherche quoi? En soupçonnant quelqu'un qui n'est pas infidèle d'être infidèle, vous lui offrez plus de facilité à tomber dans l'infidélité quand la tentation viendra. Parce qu'en disant tout le temps à l'autre qu'il est infidèle alors qu'il n'a pas été, vous lui rappelez que vous ne seriez pas surpris qu'il soit infidèle. Parce qu'il est normal qu'il soit infidèle. Donc s'il n'a pas encore été infidèle, c'est qu'il y a quelque chose de bizarre. Quand vient l'occasion de l'infidélité, dans tous les cas, c'est de ça que parlait mon conjoint tout le temps. Je vais voir qu'est-ce qu'il a donné et puis on accuse tous les jours. L'amour espère tout. L'amour croit tout. L'amour supporte beaucoup de choses, il supporte tout. Et l'amour ne disparaît jamais. On n'est pas censé dire, bon, parce qu'elle est malade, parce qu'elle est mauvaise au lit, parce que si, je ne l'aime pas. Tu peux faire de ta femme qui tu veux. Comme le dit souvent mon épouse dans ses séminaires, la Bible dit qu'un homme de la maison de Lévi a épousé une fille de la maison de Lévi. Regardez bien, l'homme ne change pas de nom, la femme change de nom. L'homme est toujours monsieur tel toute sa vie, la femme change de nom, elle est mademoiselle, elle devient madame. Regardez bien, dans la société, l'homme est considéré comme mature avant le mariage. Il faut être un homme mature et accompli pour se marier. Mais il faut juste être une fille quand on se marie. L'homme a la responsabilité, à la place du père de la fille, de parfaire son éducation, de la formater quand il veut. C'est pour ça que dans nos cultures, on donne même les filles en mariage à 14 ans, à 12 ans. Parce qu'on considère qu'un vrai homme qui est mature a la capacité, la faculté et intérêt à dompter sa femme, à l'éduquer et à la modeler comme il veut. Si ta femme est mauvaise au lit, apprends-lui à être bonne au lit. En fait, c'est ça le problème. Éduque-la. Ça suppose qu'en faisant l'amour, vous communiquez. Les gens qui font l'amour comme des momies, comme des statues. Il faut se parler. Ça, j'aime pas trop. Ah, je préfère ça. Mets la main à tel endroit. Va plutôt telle manière. Ralentis ton rythme. Et si tu essaies ça, ça se communique. Tu connais ton corps, tu sais ce que tu aimes. L'autre ne le connaît pas. Pourquoi tu veux qu'il le devine? Dis-lui clairement, si tu me faisais telle chose, ça serait pas mal. Mais c'est vrai. La communication est le fondement du couple. On dit deux hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'être convenus. Si tu ne t'entends pas avec ton conjoint sur ce que tu considères comme bon, comment ça peut être bon? L'autre raison pour laquelle les gens trouvent ou que leur homme n'est pas bon au lit ou que leur femme n'est pas bonne au lit, c'est la raison pour laquelle Dieu interdit de faire les relations sexuelles avant le mariage. Si tu dis que la femme n'est pas bonne au lit, ça veut dire forcément que tu as vu d'autres femmes au lit. Tu ne peux pas comparer ta femme à rien pour dire qu'elle n'est pas bonne. Donc l'homme qui dit à sa femme qu'elle n'est pas bonne au lit est en train d'avouer qu'elle en a connu d'autres. Il est impossible que quelqu'un dise que sa femme n'est pas bonne au lit ou que son homme n'est pas bon au lit sans avoir connu un autre. À quoi le compare-t-il? À force d'être passé de prostituée en prostituée, qui ont fait de la simulation, le jour où tu te maries, tu t'imagines que ta épouse va se comporter comme une prostituée. Et tu découvres qu'elle n'est pas aussi chaude, qu'elle ne crie pas autant qu'une prostituée, parce qu'elle ne fait pas la simulation, elle est naturelle. Et tu trouves qu'elle est différente. Mais c'est toi qui t'es fait piéger à prendre le comportement des prostituées comme la norme d'un couple. Une prostituée, tu l'appelles pour 30 minutes. Parce que ton agent, là, elle doit te donner l'impression que tu es bon. Elle fait la simulation. Tu continues, tu finis par croire que toutes les femmes vont crier quand tu es en train de leur faire l'amour pour te prouver que tu es très bon. La conclusion, tu vas dire, celle-là n'est pas bonne au lit. Parce que tu la compares à d'autres. Lui n'est pas bon au lit. Parce que tu la compares à d'autres. L'infidélité a ça pour conséquence qu'à force de balader de partenaire en partenaire, quand tu es avec les autres, tu es en train, tu n'as pas le cœur tranquille parce que tu as peur que ton partenaire te surprenne. Et quand tu es avec ton partenaire, tu n'es pas heureux parce que tu es tout le temps en train de vouloir voir en lui ou en elle les autres. Et tu es tout le temps en train de comparer ton partenaire aux autres que tu as connus. Mais comme elle ne sera jamais ou comme il ne sera jamais comme les autres, si tu continues à vouloir la comparer aux autres, tu ne seras jamais heureux. Et c'est pour ça que ceux qui n'ont pas eu beaucoup d'infidélité, d'histoire avant le mariage, quand ils se marient, ont plus de chances d'aller loin parce qu'ils n'ont pas, dans tous les cas, d'autres référentiels de comparaison qui peuvent leur donner l'impression qu'il y a mieux dehors. Mais plus quelqu'un a joué dehors, si ce n'est pas qu'il rencontre le Seigneur, plus il y a des choses qui sortent dehors parce qu'il sera tout le temps en train de chercher à retrouver les mêmes émotions qu'il a eues quand il jouait. La femme que tu vois, c'est samedi soir, pour te prendre ton argent, elle veut jouer la grande amoureuse. Elle te rencontre pendant une heure de temps, elle te baratine. Elle fait l'amour avec toi, elle s'en va. Ne peut jamais se comporter comme celle qui est dans ta maison. Balaye ta maison, gère tes problèmes, partage tes dettes, partage tes soucis, partage tes fardeaux. Le propriétaire vient de réclamer le loyer, elle doit gérer tes enfants. Elle ne peut jamais avoir le même niveau de comédie et d'extase permanent que celle que tu vas voir donquer pendant 2 minutes. Est-ce qu'on est d'accord?
Ah oui.
Et l'amour, c'est que quel que soit ce que tu n'aimes pas dans l'autre, si tu espères tout, tu espères qu'il peut être meilleur. Tu espères qu'il peut s'améliorer. Tu espères qu'il peut être transformé. Tu le lui dis sincèrement. Ou parfois, tu pries avec lui. Et vous arrivez à la solution. Chaque fois que nous sommes en colère, c'est que nous sommes manipulés par Satan. Dans un couple, quand tu connais ton épouse, tu connais ton mari, tu sais qu'il n'est pas ordinairement mauvais. Le jour où il commence à boire, prend immédiatement autorité sur l'esprit d'alcoolisme dans sa vie. Parce que tu le connais, tu sais qu'il n'est pas comme ça. Quand il devient comme ça, ce n'est pas lui le problème, c'est l'esprit qui l'anime. Attaque l'esprit qui l'anime. C'est pour ça que Paul nous dit, nous n'avons pas à combattre la chair, le sang, mais les esprits qui animent les gens dans les lieux célestes. Et si tu aimes vraiment quelqu'un, tu attaques le vrai problème. Tu n'attaques pas la personne. Et donc, pour assouvir la faim d'amour qu'il y a dans tout homme, dès la naissance, il y a en chaque personne quelque chose qui appelle l'amour. Plus quelqu'un reçoit de l'amour et en donne, moins il va tomber dans le piège de Eros et de Philéo. Les gens, par exemple, qui ont des parents qui les aiment beaucoup, ils ont un environnement familial, ils ont de bonnes relations avec leurs parents, sont moins portés à toutes ces choses-là que ceux dont les parents ne s'occupent pas, papa ne s'en occupe pas, maman ne s'en occupe pas. Dès qu'un garçon dit « Je t'aime, tu es belle », même dans sa maison, papa ne lui a jamais dit qu'elle est belle, papa ne lui a jamais dit qu'elle est intelligente. Un homme dit qu'elle est belle. Bon, elle est prête à tout pour cet homme-là. Là, c'est la première fois que quelqu'un lui donne de l'amour. Plus vous allez recevoir de l'amour, plus vous allez donner, et là je parle aux parents, plus vous allez donner de l'amour à vos enfants, moins ils seront manipulables par les déclarations d'amour. Pour mon fils, je donne souvent cet exemple. Quand, avec un de ses amis en jouant, ils ne sont pas d'accord, les enfants ont l'habitude d'entre eux de se dire, je ne serai plus ton ami. Et pour beaucoup d'enfants, dès que les autres disent, je ne suis plus ton ami, ils sont prêts à tout pour que les gens deviennent leurs amis. Quand moi, et le Seigneur a étudié ça pour m'apprendre certains principes sur ma relation avec Dieu, quand tu dis à mon fils, je ne suis plus ton ami, immédiatement il te dit d'attendre. Il me cherche ou il cherche sa maman. Parfois, il cherche les deux. Il dit, papa, Mira dit qu'elle n'est plus mon ami. Est-ce que toi, tu es mon ami toujours? Oui, Paul, je suis ton ami. Parfait. Maman, Mira dit qu'elle n'est plus mon ami. Toi, tu es toujours mon ami? Oui. Il dit, Mira, tant pis pour toi, tu peux partir. C'est-à-dire qu'il a compris que, même si elle, elle ne l'aime pas, il a des amours garantis. Il fait le point de qui j'ai vraiment besoin pour être heureux. Papa m'aime toujours, maman m'aime toujours. Va te faire foutre. Même si c'est sa soeur, va te faire foutre. Mais chacun de nous devrait faire ça avec Dieu. Si nous savons que Dieu nous aime et que nous-mêmes avons la possibilité d'aimer les autres tous les jours, nous serons moins séduits par le premier qui dit « Je t'aime ». Nous serions capables d'assouvir notre faim d'amour, d'être épanouis, Quand quelqu'un dit comment gérer le fait qu'on s'affiche avant le mariage, on va venir là. Mais tu es capable de vivre sans même quelqu'un qui est un héros avec toi, tant que ton besoin d'amour est assouvi par l'amour de Dieu, l'amour que tu portes au prochain. Et d'ailleurs, dans l'amour que tu portes au prochain, c'est là que tu vas découvrir ton conjoint. On ne peut pas découvrir son conjoint en sortant avec les gens, en couchant avec eux pour voir si le bon mari est là. Il faut connaître plein de gens en agapao, fréquenter ces gens en agapao pour voir leur caractère, leur comportement, leur personnalité, leur environnement, leur nature. Et à un moment, Dieu ouvre tes yeux sur quelqu'un en particulier pour dire, regarde, cette personne est plus qu'un simple agapao. Il est taillé pour toi. Tu es taillé pour elle. Les telles circonstances commencent à s'agencer, telles fois, tu vois que ça, là, vraiment, la synchronisation est trop parfaite dans vos destinées. Vous commencez à vous fréquenter un peu plus comme amis. Vous vous faites connaître par vos parents. Vous entrez en fiançailles. Et si la synchronisation continue d'être parfaite, vous demandez la volonté de Dieu. Dieu confirme toujours que c'est continue d'être parfaite. Vous finissez par décider de vous engager pour le meilleur, pour le pire. De faire un. À ce moment, Eros vient comme la cerise sur le gâteau. Eros vient comme le fruit qui vient couronner votre agapao extraordinaire pour faire que vous deux là, vous êtes plus que deux personnes, vous devenez un et vous rentrez dans une dimension que vous n'avez pas avec les autres avec qui vous avez agapao. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont agapao pour personne. Et ils se lèvent un jour, ils cherchent à partir de Eros qui va aller agapao. On ne peut pas sélectionner le partenaire de agapao sur la base de Eros. Vous me suivez? Ce que vous faites, c'est que vous cherchez dans les candidats à Eros le mari agapao. C'est impossible. Tu peux trouver dans les candidats agapao le mari qui va être aussi Eros. Mais tu ne trouveras jamais dans les Eros le agapao. Pour pouvoir trouver le conjoint, il faut agapao tout le monde. Demander à Dieu d'ouvrir les yeux sur la bonne personne, la découvrir plus, l'agapao un peu plus que tout le monde. Et quand vous êtes maintenant un devant Dieu, le Eros vient couronner ça. Et quand c'est dans cet ordre-là, Dieu comme fondement, l'amour agapao ensuite, le Eros qui vient couronner le truc, c'est un amour indéboulonnable. Si vous voulez choisir un critère pour choisir votre femme, que ce soit la crainte de Dieu. Un critère pour choisir votre mari, la crainte de Dieu. On dit enfant que une marmite ne tient sur le feu que quand il y a au moins trois pierres. L'amour à deux ne peut pas tenir. Pour que l'amour tienne, il doit être à trois. Deux personnes et Dieu. Si Dieu n'est pas la troisième pierre de votre mariage, vous n'irez nulle part. Vous allez vous fatiguer de vous regarder dans les yeux. C'est sûr, tôt ou tard. Alors quelqu'un demandait, on doit faire l'amour à quelle fréquence? Il n'y a pas de règle, l'amour n'est pas mathématique. Ça dépend d'abord des personnes. Il y a des gens qui sont de nature à vouloir faire l'amour plus souvent que d'autres. Donc les deux doivent s'entendre. Un. Deux, ça dépend des âges. On n'a pas envie de faire l'amour à la même fréquence quand on a 20 ans, quand on a 30 ans, quand on a 70 ans. Si à 20 ans, peut-être tu as envie de faire l'amour tous les jours, je suis sûr qu'à 40 ans, même si tu veux, tu n'auras plus la force de faire l'amour tous les jours. Et à 70 ans, bon, en tout cas, je ne sais pas. Donc, les mêmes personnes, à des âges différents, n'ont pas le même comportement sexuel. Quand tout va bien dans votre couple, vous pouvez avoir plus envie de faire l'amour que quand il y a de la tension. Tout couple a des hauts et des bas. Dans la jeunesse, il y a eu un jour, il y a eu un jour, une nuit. Il y a eu un jour, une nuit. Toute chose dans la vie a des cycles. L'amour aussi, quel qu'il soit, même quand il n'y a pas de problème, va connaître des apogées et va connaître des déclins. Quand vous êtes à un apogée, vous pouvez passer par exemple une semaine où tous les jours vous faites l'amour. Comme vous pouvez dans des phases, vous passez peut-être un mois, même deux mois sans faire l'amour, ce n'est pas qu'il y a un problème, mais vous n'en avez pas particulièrement envie. Donc, ça dépend de beaucoup de choses. De votre âge, ça dépend de votre situation. Quand par exemple un homme est stressé au boulot, il a des problèmes d'argent, il a moins de libido. Et par exemple, il y a des moments où les femmes vont se dire, mais mon mari là, est-ce qu'il me trompe? C'est bizarre, il n'a plus envie de moi. Il a chaud. S'il a chaud au boulot, il n'a pas payé des choses, il a des dettes, ainsi de suite. Quand l'homme n'est pas détendu, il n'a pas trop envie de faire l'amour. Donc parfois, il est connu que quand les hommes atteignent un certain niveau de stress professionnel ou dans la vie, leur libido peut baisser. Ça ne veut pas dire qu'il y a un problème dans leur couple. Mais c'est qu'ils n'ont pas la tête à ça. La solution, c'est que tout en le comprenant, en le respectant, la femme doit faire un grand travail de détendre l'homme. Un homme peut arriver avec des soucis, mais une femme sage peut le détendre, peut l'apaiser, peut le masser, peut lui parler de Dieu, peut faire des blagues, peut le ramener à un moment, à un niveau de détente suffisant pour qu'il ait envie de faire l'amour. Mais s'il arrive avec tous ses problèmes, et toi tu dis, bon, on va faire l'amour, bon, à la limite, il va faire un devoir conjugal. Je dis toujours, il y a une différence entre devoir conjugal et faire l'amour. Mais si vous faites trop souvent le devoir conjugal, vous finissez par tuer l'amour. Moi, j'estime que quand on n'a pas envie de faire l'amour, c'est encore mieux de s'entendre pour ne pas le faire que de faire la comédie. Parce qu'à force de faire la comédie, on finit par être dégoûté de l'amour. Alors qu'on aurait pu très bien se comprendre et respecter le moment où on n'est pas forcément en forme, où on n'a pas forcément envie de faire l'amour. Vous devez savoir aussi que dans les relations, il y a des phénomènes. Il y en a beaucoup, mais je vais vous donner quelques exemples. L'un des phénomènes, c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'élastique. Ce phénomène fait que les hommes sont comme des élastiques. Quand un homme aime, à un moment, c'est comme s'il se tire, l'élastique se tire. C'est comme si lui-même, il est là. Et puis, il va de plus en plus loin vers son conjoint. Donc, il s'étire dans son amour pour rejoindre son conjoint. Mais périodiquement, il sent que l'élastique est tellement tendu qu'il risque de se casser. L'homme sent le besoin de relâcher la pression et de revenir à la situation initiale. Tout homme va avoir en lui des cycles où, sans raison, il sent le besoin de prendre les distances par rapport à sa conjointe pour se sentir seul. Il se réfugie, il peut se réfugier dans la prière, c'est un chrétien, dans la Bible, il peut traîner plus tard au bureau, il peut vouloir faire du sport, il peut vouloir aller chez ses parents. Des hommes, tout homme va arriver à un moment de sa vie, ce n'est pas ponctuel, hein. C'est des cycles qui sont répétitifs. Évidemment, plus on est fort mentalement, plus ça se gère. Mais des moments où on sent que ton épouse n'a rien fait, personne n'a rien fait, mais tu n'es pas d'humeur à voir des gens, être en train de rire, être à la maison, tu as juste envie de prendre ta distance et de sortir seul. À ce moment-là, si l'homme était déjà un coureur de jupons, donc la femme se méfiait déjà, ou s'ils n'ont pas un couple solide, la femme panique. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu me caches? Tu ne rentres pas à la maison tôt? Ou bien tu ne parles plus? C'est quoi? Il y a quelque chose? Ah, il y a quelqu'un? Tu es passé où? Elle devient agressive. Oh, quand l'homme est dans cet état-là, il est déjà nerveux. Si tu commences à l'agresser, tu es en train de l'empêcher de se replier sur lui-même pour reprendre des forces. Parce qu'en fait, l'homme qui s'est tendu pendant un certain temps a besoin de se replier sur lui-même un peu pour se ressourcer. C'est comme s'il a peur, à force de s'éloigner de son intimité à lui-même, il a peur d'être perdu. Donc il sent le besoin de se replier sur lui-même pour se réconcilier avec lui-même, pour se rappeler qu'il est lui-même, pour retrouver ses forces, avant de recommencer encore à se rapprocher de toi. À ce moment-là, si la femme est mature, elle est avec son mari, il n'y a pas de problème, elle comprend qu'il y a des hauts et des bas, elle reste gentille, elle ne le stresse pas de questions, ne le fatigue pas, et ça va lui passer. Moins le stress de questions, plus vite ça lui passe. Parce que plus vite, il va pouvoir refaire son plein d'énergie, d'enthousiasme, et recommencer à tendre vers elle. Mais s'il la harcèle trop, parfois si c'est une femme arrogante, le moment il incite, fait des scandales, ainsi de suite, dans ce moment, il y a le grand risque que l'homme en ait marre, qu'il casse tout. Parce qu'il est psychologiquement dans une logique où il est déjà fragile. Si tu mets la pression là, il peut casser et ne jamais revenir. On appelle ça le phénomène de l'élastique dans la personnalité des hommes. Les femmes ont un équivalent qu'on appelle le phénomène des vagues. Le phénomène des vagues, c'est lorsque les femmes sont là, tout va bien, elle a tout ce qu'elle veut, elle est heureuse, elle même te dit qu'elle est heureuse, tu vois qu'elle est heureuse, et subitement elle commence à pleurer. Elle est triste. Elle a l'air d'avoir un souci. Qu'est-ce que tu as? Rien. Tu poses toutes les questions du monde, elle ne te dit rien. Mais tu vois qu'elle est déprimée, elle est soucieuse, elle est malheureuse. Je t'ai fait quelque chose, rien. Tu cherches tout. Elle ne te dit pas qu'est-ce qu'elle a. Mais tu vois bien qu'elle est malheureuse. Et l'homme, ça l'énerve. Il dit, c'est quoi? Je t'ai fait quelque chose. Si j'ai fait quelque chose, dis-moi. Bon, si toi-même tu es encouragé, tu commences à dire, tu penses au mien, elle a découvert quelque chose. C'est pour ça qu'il vaut mieux être dans la vérité. Là, tu n'es pas stressé particulièrement. Mais toute femme va souvent connaître, évidemment, une fois encore, le niveau de maturité faisant, les fréquences peuvent diminuer. Va connaître des moments ici où elle devient périodiquement très triste. Et c'est pas. C'est-à-dire, elle plonge. Elle passe du niveau. Et souvent, le pire, c'est que ça se passe au moment où elle est la plus heureuse. Avant une femme, elle semble être très heureuse. Subitement, tu la vois devenir déprimée. Et les jours qui suivent, elle déprime. Et elle plonge, jusqu'à toucher le fond. Et quand elle a touché le fond, comme le fond d'une piscine, maintenant elle remonte un peu. Et tu, parfois, tu ne sais même pas qu'est-ce qui lui est passé. Elle te fait la tête pendant une semaine et subitement redevient normale. À quoi c'est dû? Les femmes ont un grand besoin permanent de sécurité. Et elles ont toujours ou souvent un comportement, surtout au début, et surtout qu'elles ont beaucoup souffert dans la vie de c'est trop beau pour être vrai. Ça fait que paradoxalement, plus tu combles une femme de bonheur, plus en voulant jouir de ce bonheur, elle tombe dans les trous du passé. Je vais vous donner un exemple. Tu viens de faire un grand cadeau à ta femme. Tu viens de lui offrir des fleurs. Tu es un mari extraordinaire. Elle est contente, elle est heureuse. Donc tu vois qu'elle est heureuse. Et dans sa tête, Si on m'avait dit que j'allais être heureuse comme ça un jour, immédiatement, elle commence à se rappeler tous les gens qui l'ont rendu malheureux. Elle ne te parle pas, hein. Vous êtes là, mais elle est en train de penser. Elle se rappelle qui l'a offensé, qui l'a brûlé, qui l'a violé, qui l'a humilié. Ah, sa maman, elle se rappelle que voilà, sa maman est morte. À telle personne, sa maman lui avait dit, ah, si ça. Elle se rappelle en même temps l'enterrement de sa maman. Elle dit, en partant d'un point de bonheur, qu'elle se dit, est-ce que j'ai pu vivre ça? Comme les femmes passent tout leur temps à, pas cogiter, mais à ruminer, comme les ruminants, les choses dans la tête, dans ces trucs-là, elle finit par faire des enchaînements logiques et elle peut se retrouver en pensée dans les pires moments de sa vie. Donc, elle est au milieu du bonheur. Hein? Elle a tout ce qu'il lui faut. Rien ne lui manque. Tu ne lui as rien fait. Mais par ce phénomène, justement parce que tout allait bien et qu'elle commence à vouloir analyser ce qui lui va bien en le comparant à ce qui ne va pas bien, Satan l'entraîne mentalement et elle plonge dans ses souvenirs malheureux. Or, quand tu es dans un souvenir malheureux, tu es malheureux. Donc, le temps de se rendre compte de ce qui lui arrive, qu'elle ne comprend pas elle-même, elle découvre qu'elle ne sait pas pourquoi, mais tout l'énerve, elle est devenue triste, elle est déprimée. Elle-même, elle a honte d'être déprimée, puisqu'elle sait qu'il n'y a pas de raison à ce qu'elle soit déprimée. Plus tu lui poses la question, qu'est-ce qui ne va pas, faire quoi, tu me trompes, qu'est-ce que tu me caches, qu'est-ce que je t'ai fait, plus tu lui mets la pression, tout ça vient créer. Quand tu lui mets la pression, elle dit, ah oui, moi, est-ce que cela va partir aussi comme les autres, peut-être que c'est la fin du rêve. C'est, la femme, Dieu nous dit que les femmes sont un sexe faible. Elles sont mentalement faibles. Donc, elle peut rapidement déprimer dans sa tête. Plus tu vas la harceler comme l'homme, plus elle va craquer. Plus elle pourrait rester longtemps dans la déprime. À ce moment, il ne faut pas parler beaucoup. Quoi qu'il en soit, chérie, je suis de cœur avec toi. Si tu as besoin de moi, je suis là. J'ai pris pour toi, ça va bien, tu veux quelque chose, non? Ok, à tout à l'heure. Il ne faut pas la fatiguer, il ne faut pas la stresser, il ne faut pas lui poser de questions, il ne faut pas faire de discours, il ne faut pas faire de raisonnement. Montre-lui juste que, quoi qu'elle ressente, tu l'aimes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as, mais tu sais que tu peux compter sur moi. Quoi qu'il en soit, je suis là pour toi. T'inquiète pas, ça peut arriver. Je prie pour toi. Demain, ça ira mieux. Tous les jours ne sont pas dimanche. Parce que quand elle est comme ça, elle se dit, est-ce que mon humeur encore ne va pas l'énerver? Elle ne sait pas pour ça qu'il va partir. Elle veut rapidement changer son humeur. Mais elle ne peut pas faire plus fort qu'elle. Le plus grand acte d'amour que tu peux faire là, c'est de lui montrer que quoi qu'il en soit, dans tous les cas, toi, tu l'aimes et tu es patient. Que tu comprends qu'on puisse avoir des hauts et des bas. Et quand toi aussi, tu es dans cette humeur d'élastique, elle doit comprendre. Quoi qu'il en soit, chérie, je suis là pour toi. Si tu as besoin de moi, appelle-moi. Beaucoup de couples meurent dans ces moments-là. Parce qu'on prend le repli de l'homme pour la preuve d'un problème inavoué. On prend la femme qui tombe au fond de son puits comme un problème. Elle, peut-être qu'elle me cache quelque chose. Peut-être que c'est parce qu'elle sort avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais ce problème. Mais parfois, il n'y a rien d'autre que ça. Et dans ces moments-là, souvent, les gens qui n'ont pas un bon cœur révèlent leur mauvais cœur. La femme, là, te trompait déjà, cherchait un prétexte pour te quitter. Quand tu es dans la salle, d'ailleurs, moi, je partis. Tu es toujours comme ça. Et là, tu dis, ah, c'est comme ça ici. Je croyais que tout allait bien. Quand tu es dans ton élastique, souvent, la femme va révéler son vrai visage dans sa colère. Quand tu es dans ton puits, si l'homme était là juste pour coucher avec toi, c'est pendant que tu es dans le puits qu'il va fuir. Ça lui donne le moins prétexte pour pouvoir partir, donc tu dis pourquoi elle est partie. Et donc, beaucoup de gens, dans ces phases de trous-là, voient leur couple disparaître. L'amour doit surmonter tout ça.
Mon ami, écoute ton Dieu. Mon ami, écoute ton Créateur. Il y a de l'espoir pour toi en ce monde.
Vous venez de suivre un séminaire de formation du Club Jésus pour réussir, animé par Edgar Guidibi et Hermione Fouigban. Le Club Jésus pour réussir a pour vocation de vous aider à vous épanouir et à prospérer en démontrant par les fruits qu'il vous fera porter que Jésus est bel et bien le chemin, la vérité, la solution et la vie.
Christ est la solution. Décharge-toi sur lui.
Le Club Jésus pour réussir est situé à Sainte-Rita, au bord des pavés non loin de la station MRS. Vous pouvez nous joindre en visitant le www.jésuspourreussir.org ou en appelant le 00229 94 01 54 26. Club Jésus pour réussir. Une initiative de Global Service Plus qui évolue dans le secteur de l'immobilier, de la formation, du marketing et dans bien d'autres. Visitez le www.globalserviceimo.com ou appelez le 00229 94 97 07 07 pour en savoir plus. Que Dieu vous bénisse.
Pourquoi continuer à souffrir ainsi? Tandis que la solution